Kevin Laforêt, bonjour.
Bonjour Hugo, ça va bien?
Ça va toi?
Oui, super.
Écoute, c'est notre officiellement notre premier épisode de 2024 en rembobinage. On vous fait la petite histoire rapidement. On vous a préparé un épisode de rattrapage qui va sortir la semaine prochaine. Donc, quand vous écouterez cet épisode-ci, la semaine suivante, il y aura donc cet épisode de rattrapage où on va vous parler de certains films là qui sont sortis fin de l'année 2023, début 2024. Mais aujourd'hui, on veut faire un épisode spécial parce que le film dont on va parler, évidemment, impossible de passer à côté. De quel film est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
On parle de la suite de Dune, Dune Part 2.
Oui, effectivement, Dune 2, La Vengeance, ou en tout cas quelque chose comme ça, La Revanche du Sable. Non, effectivement, Dune deuxième partie, j'en reviens pas que Dune première partie date déjà de 2021. C'est presque 3 ans jour pour jour là, maintenant là, que c'était sorti.
En fait, 2 ans et demi, parce qu'il était sorti, je crois, soit en octobre ou novembre 2021.
Ah oui, c'est
là,
vrai.
On est en début d'année.
C'est vrai. Bon, je me disais temps froid, mais effectivement, il y a du temps froid aussi. À la fin de l'année, je me souviens, je l'avais vu à Québec. Encore une époque où on savait pas trop s'il fallait mettre le masque ou pas dans la salle de spectacle, puis tout ça, puis c'était pas clair. Bref, cette période-là est finie, en tout cas, jusqu'à la prochaine pandémie. On se donne encore quelques années, espérons-le, avant le retour du masque. Non, c'est ça, Dune, écoute, à l'époque, c'est ça, c'était la très grosse affaire, c'était le phénomène, évidemment, film réalisé et co-scénarisé par Denis Villeneuve, basé sur le livre de Frank Herbert, évidemment, le classique de la science-fiction de 1965 de Frank Herbert, qui avait eu droit d'adaptation, évidemment, dans les années 80 avec David Lynch. On en avait parlé... toi et moi, là, je pense pas directement, mais on a évoqué plusieurs fois le Dune de Lynch. Là.
Oui, dans l'épisode qu'on a fait sur le premier Dune de Denis Villeneuve, je pense qu'on avait quand même fait beaucoup de liens avec en quoi c'était différent de la version de David Lynch. Là.
Oui, puis bon, quand on a parlé du documentaire sur Lynch aussi, on a évidemment parlé de Dune, parce que bon, il y en a fait mention dans le documentaire, bien sûr. Mais là, c'est ça, on se retrouve aujourd'hui pour... Dune, donc deuxième partie, Denis Villeneuve qui a évité l'écueil de tout raconter Dune, en tout cas le premier roman, en un seul film. Lynch t'a un peu cassé les dents là-dessus il y a maintenant une quarantaine d'années, avec d'ailleurs une introduction qui durait, je pense, 20 minutes, une narration de 20 minutes ou quelque chose comme ça. Il fallait t'accrocher solide là, pour vraiment garder le rythme. Est-ce que, déjà, sautons à pieds joints, donc, dans ce Dune deuxième partie, est-ce que t'as aimé Dune Part 2?
Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai même plus aimé encore que la première partie. Et, comme tu dis, on va pas insister encore sur les liens avec la version de David Lynch, mais je veux juste mentionner que, tu sais, le fait que dans la version de David Lynch, c'est tellement rapide, la deuxième partie... Je l'ai revu récemment. J'aime quand même cette version-là pour différentes raisons. Tu sais, c'est vraiment extravagant, tout ça. Mais ce qui représente la deuxième partie, je pense que ça dure 45 minutes. Fait que c'est tellement précipité. Oui. Et là, maintenant, avec Denis Villeneuve, on a une version de 2h45, je crois, où que vraiment on a le temps de vivre avec les Fremen puis de comprendre tous les enjeux. Puis on va pouvoir en parler. Moi, je trouve que c'est très réussi.
Je trouve que c'est très réussi aussi. J'ai certaines réserves qui, d'abord... Bon, Dune, ça fait très longtemps que j'ai lu ça, le roman, là. Mais j'ai l'impression que c'est ce genre d'œuvre, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a eu très, très peu d'adaptations. Puis bon, après celle de Lynch, il y a eu... ça a acheté un certain froid sur la chose. J'ai l'impression que c'est très difficile à adapter parce qu'il y a tellement de choses... puis on parle seulement du premier roman, là, le premier Dune, donc il y a eu toute une série ensuite, il y a eu des livres ensuite qui précèdent l'histoire de Dune. Bon, c'est un univers littéraire très 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 développé et c'est tellement dense comme science-fiction, il y a tellement de choses à expliquer puis à comprendre que transposer ça au cinéma, on l'a déjà mentionné, on le mentionnait en 2021, là, c'est un champ de mine et on disait, bon, j'ai pas réécouté notre épisode de 2021, mais pour avoir revu effectivement le Dune première partie, il n'y a pas si longtemps que ça, Villeneuve avait réussi à expliquer des choses sans se plonger justement dans des histoires d'appellations puis de mots inventés ou de le fameux lore, comme on dit en bon français, sans devoir justement se perdre dans les explications. Il réussissait à rendre ça simple. Je te dirais que mon principal... j'ai deux... on va pas rentrer dans les 18 gâcheurs non plus, évidemment. Le film est encore en salle. On va pas faire exprès de vous gâcher les punchs. Mais je te dirais que c'est ça, deux petites choses qui m'ont un peu agacé. D'abord, j'ai trouvé que d'une deuxième partie est à la fois trop et pas assez long. Parce qu'il y a des choses qui... Je te vois sourire, puis clairement, on va pouvoir en discuter tout de suite après. Là. Il y a des choses qui sont très bien expliquées, comme tu mentionnais, les Fremen, leur mode de vie, leurs croyances. Puis il y a des choses qui sont presque survolées, comme par exemple les jeux de coulisses, les jeux politiques avec les grandes familles. Puis bon, je suis pas là en disant ça me prend un drame politique plate où on fait des réunions, puis il y a des heures du jour, puis bon. Mais je trouve ça dommage parce que c'est quand même une partie importante de l'histoire, cette lutte avec les grandes familles, cette lutte avec l'Harkonnen, puis bon, l'empereur se mêle à ça aussi. Puis ça, c'est pas du tout un vieux gâcheur. Là, on savait que Christopher Walken joue l'empereur. D'ailleurs, puis ça, je vais y revenir. Mais c'est ça, donc je trouve que c'est à la fois trop long et trop court parce qu'il y a des choses qui sont laissées de côté qui, selon moi, auraient pu rendre le film plus intéressant. Et dans la foulée de ça un peu, je trouvais que... tout ce côté-là de manigance politique puis de jeu de pouvoir, on se rend compte que, je sais pas si c'est voulu ou pas, ou c'est Villeneuve qui tourne les coins ronds, ou peu importe, les méchants sont tous tellement incompétents que ça devient absurde. Il y a des choses qui n'ont aucun sens. Sur le plan du film, pour faire en sorte que ce soit un beau film, qu'il y ait de l'action, parfait, mais quand on prend je sortais de la salle, puis je me disais, voyons, il me semble que c'est un peu absurde, ce genre de... Bon, ça n'empêche pas d'apprécier le film, mais bref, deux petites choses, c'est ça qui m'a un peu agacé, puis bon, évidemment, on est là pour en discuter. Justement, je disais, c'est à la fois trop court, trop long. Qu'est-ce que tu as pensé de la durée?
Premièrement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, que dans le film, on n'insiste pas tant que ça sur les manigances politiques, les grandes maisons, tout ça, mais moi... en janvier, j'ai fini de lire le premier roman de Dune. J'ai tout de suite enchaîné avec Dune Messiah. Puis là, en ce moment, je suis en train de lire le troisième, Children of Dune. Fait que moi, tout ça est assez frais dans ma tête, les livres. Et franchement, le premier livre, le film de Denis Villeneuve en deux parties est très fidèle au livre. Okay. C'est sûr qu'il va pas autant dans les détails puis tout expliquer. Il fait vraiment du cinéma, puis tu sais, il a dit récemment en entrevue que lui, c'est pas un grand fan de dialogue, tu sais, puis moi, je trouve ça correct dans un sens, parce que tu sais, il veut nous montrer des choses, pas nécessairement nous les expliquer,
ouais.
Mais les manigances politiques, c'est assez survolé dans le premier livre de Dune. Dans les livres suivants, on plonge plus là-dedans, mais dans le premier livre... OK, Elia Trédès, qu'on voyait surtout dans le premier film, dans la première partie, puis il y a les Harkonnen, qui sont les méchants, qui sont quand même beaucoup là dans la deuxième partie, mais sinon, c'est pas mal ça, t'sais, on voit un peu l'Empereur, mais t'sais, c'est pas... on va pas t'entendre dans les détails là-dessus. Puis par rapport à trop long, trop court, c'est dur à dire parce que d'un sens, je suis d'accord avec toi que c'est vrai qu'il y a des trucs qui vont très rapidement, puis il y a d'autres trucs que peut-être qui sont un peu plus longs, mais je sais pas, c'est oui, le film, c'est sûr qu'un film de 2h45, c'est long, tu sais, ça peut pas avoir donné l'impression d'être un film de notre 90 minutes réglementaire. Mais moi, je suis allé le voir deux fois au cinéma à date d'une deuxième partie. Puis, j'embarque au bout. Puis, je trouve pas qu'il y a tant de longueur que ça. Pour un film aussi long, je trouve que il y a peu de temps mort. C'est pas mal toujours fascinant, émouvant, beau. Ouais. Il y a de l'action, il y a quand même beaucoup d'action. Je dirais qu'il y a plus d'action que dans le premier film.
Mm-hmm.
Puis, quand on parlera peut-être des bémols, si j'en ai un, ça peut avoir un peu rapport avec tout ça, mais je vais attendre peut-être plus tard dans l'épisode pour en parler.
C'est bon. Ben effectivement, généralement, les bémols, c'est plus vers la fin, bien sûr, quand on essaie de... Parce que des fois, on est pris d'un enthousiasme délirant, puis on dit « Ah, finalement... » la couleur dans tel sein était bon. Mais bon, non, je pense qu'on peut déjà effectivement s'entendre pour dire qu'on a vraiment, vraiment beaucoup apprécié d'une deuxième partie et qu'ensemble, ce Dune-là, ce méga-film, si on veut, de quasiment 5 heures, sans doute, c'est extrêmement réussi, c'est extrêmement bien fait. Il y a des bons acteurs. Visuellement, c'est spectaculaire. Puis je pense encore plus dans celui-ci. Puis d'ailleurs, ben, écoute, parlons tout de suite des visuels. Bon, là, évidemment, ça fait des semaines, peut-être même des mois que, bon, dans les médias d'ici, on est très content de parler de Denis Villeneuve, on est très content de parler parce que c'est un gars de chez nous. D'ailleurs, parenthèse, je te l'ai envoyé, d'ailleurs, Denis Villeneuve a essayé de glisser un sacre québécois dans le dialogue de Dune 2.
Oui, il a essayé de, je pense que c'est Josh Brolin, de dire tabarnak pendant le film pour que ça passe un peu inaperçu. Tu sais, les gens qui sont pas québécois auraient fait « Ah, ça doit être un mot Fremen ou peu importe », mais nous, au Québec, on aurait fait « Ah, il a mis un tabarnak ».
Oui, mais je veux dire, un côté, je trouve ça drôle, puis c'est très... tu sais, j'apprécie vraiment ça chez Denis Villeneuve, il s'en fout pas la tête, tu sais, parce qu'on a eu, bon, certains cinéastes québécois... qui ont peut-être, tu sais, qui ont dit, ah, OK, j'ai gagné un prix, je suis rendu bon, tu sais, mes films fonctionnent bien. Puis là, soudainement, c'est comme, ah, ben, si je gagne pas à telle place, à tel festival, ben, c'est parce que c'est arrangé ou, bon, tu sais, les gens ont une dent contre moi. Je donnerai pas de nom, là, mais je veux dire, c'est arrivé relativement récemment.
Tu parles de quelqu'un qui dit prendre sa retraite ou?
Oui, exactement, ouais. Oui. Mais en même temps, je connais pas le contexte particulier, mais c'est ça. On voit Denis Villeneuve qui a repris la franchise de Blade Runner, qui a repris la franchise de Dune, qui sont des monstres sacrés de la science-fiction, puis bon, qui a fait ses propres films aussi, bien sûr, mais qui a fait des méga blockbusters et qui reste lui-même. Ben, je veux dire, j'ai jamais rencontré personnellement, mais il y a là la personne qui reste lui-même, qui est venu à Montréal récemment pour justement la première de son film, qui, juste, bon, c'est une blague, évidemment, le tabarnak, mais tu dis, OK, j'ai essayé de mettre des choses là-dedans, puis je voyais une entrevue récemment où il disait, les Fremen, les obstacles rencontrés par les Fremen, c'est un peu... Là, je pense, un lien peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il faisait un lien avec la situation des Québécois à l'époque. Les Canadiens français, qu'on les appelait dans le temps, la pauvreté, tout ça, puis l'oppression. C'est sûr que, bon, les Canadiens français, on vivait pas dans le désert en train de se battre contre des impérialistes venus de l'espace qui volent nos ressources. Mais c'était quand même un peuple pauvre, sous-éduqué ou pas éduqué, qui se faisait exploiter par des gens venus d'ailleurs, donc qui parlaient pas la langue du coin, puis tout ça. Je veux pas dire qu'il y a un lien, là. C'est certain que moi, je vois beaucoup plus un lien que les peuples arabes ou en tout cas de la région moyen-orientale ou nord de l'Afrique.
Ben oui, c'est sûr.
Et des colonisateurs. Mais bon, qui essaient de tisser des liens comme ça, je trouve ça quand même intéressant. Toi, tu penses quoi de ces déclarations-là?
Ben, comme tu dis, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui. Si on parle du Québec, à la limite, moi, je ferais plus un lien avec les Premières Nations qui ont été envahies par les colonisateurs. Puis comme tu dis, c'est sûr que Frank Herbert, à la base, vu que ça se passe dans un désert, puis selon les mots qu'il utilise dans son roman, et plein de choses comme ça, on pense vraiment au Moyen-Orient. Sur Arrakis, c'est l'épice que tout l'univers veut venir exploiter, mais au Moyen-Orient, c'est beaucoup le pétrole. Il y a un lien direct à faire, là.
Oui, absolument. Mais bon, bref, ça me faisait quand même sourire de voir que, bon, tu sais, Denis Villeneuve reste québécois en un sens. Il y a un sacré accent quand il parle en anglais. Ça reste un gars d'ici, là.
Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, tu disais que toi, tu l'as jamais rencontré. Moi, dans le temps que j'étais au journal Voir, je l'ai interviewé quelques fois. Mm-hmm. Je suis même déjà allé prendre une bière avec lui, tu sais, sans être un ami. Tu sais, j'ai socialisé un peu avec lui. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Tu sais, les fois où je l'ai interviewé, c'était dans le temps qu'il faisait encore des films strictement au Québec. C'était avant qu'il devienne un des plus grands réalisateurs à Hollywood. Mais cette semaine, j'ai assisté à une conférence de presse virtuelle dont j'ai fait un compte-rendu sur pieuvre.ca.
Oui.
Et comme tu dis, tu sais, on le sent encore très simple, très authentique. On n'a pas l'impression qu'il est rendu prétentieux, qu'il est seulement avec les stars à Hollywood. Puis c'est ça, tu sais, oui, quand il parle en anglais, on sent son accent québécois. Puis quand aussi, j'ai vu sur YouTube, j'écoutais des entrevues en France avec Denis Villeneuve. Puis, tu sais, souvent, les Québécois en France, ils vont essayer d'adapter leur accent pour avoir un accent plus à la française. Mais Denis, il garde son accent québécois. Puis c'est comme, ben, je suis sûr que vous êtes capable de me comprendre. Je vais pas essayer de me donner un petit accent parisien, là.
Voilà. Ben, en tout cas, tant mieux. Ça a l'air d'une personne franchement sympathique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'on a vu même avant que le Dune première partie sorte, c'est le petit gars, l'adolescent qui réalise son rêve d'adolescent il y a justement, je pense qu'il disait, j'ai lu Dune, puis là, je voulais faire un film là-dessus, je voulais mettre ça au grand écran, puis c'est comme, je sais pas à quel âge, je dois avoir fin quarantaine, peut-être début cinquantaine, je sais pas, là, mais qui a réussi finalement, là, qui a dit, bon, ben, tu sais, qui peut se vanter d'avoir... Ah, il y a 56 ans, voilà. Qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir travaillé sur Blade Runner, d'avoir travaillé sur Dune, puis d'avoir réussi? C'est pas comme si c'était des flops où il n'y avait pas eu de budget ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire ensuite. S'il va faire des huis clos qui se passent dans le fin fond de la Gaspésie, là. Mais il a atteint ce qu'il voulait atteindre comme objectif, là, clairement.
Ben il a dit récemment en entrevue que vu que sûrement que toute sa vie, toute sa carrière, il n'aura pas accès à ce niveau-là des méga productions hollywoodiennes, peut-être que dans 20 ans, il va revenir à faire des petits films au Québec parce qu'il ne sera plus, entre guillemets, la saveur du mois à Hollywood. Fait que, en ce moment, il peut à peu près tout faire. Fait que, tu sais, il dit qu'il va en profiter. Puis, tu sais, il adore la science-fiction puis les gros films à grand déploiement. Fait que tant qu'il va pouvoir en faire, je pense qu'il va continuer. Et évidemment, ça, il le dit beaucoup. Tu sais, on dit que Dune, deuxième partie, c'est la conclusion de son adaptation de Dune. Mais là, on parle du premier roman. Mais lui, il aimerait faire au moins un troisième film qui serait une adaptation de Dune Messiah, qui est en quelque sorte l'épilogue de Dune. Ça formerait une belle trilogie.
Ben écoute, j'ai pas lu Le Messie de Dune. Ma crainte, ça serait quand même que... Ben, je sais à quel point, je le disais tantôt, c'est dense comme livre. Ma crainte, ça serait que ça soit trop compliqué à adapter. Peut-être, je sais pas, il a réussi avec Dune. Peut-être qu'il va réussir avec Dune Messiah, ben, ça reste à voir.
Rapidement, à propos de Dune Messiah, moi, j'ai récemment terminé de lire. C'est un petit roman, c'est à peu près la moitié, peut-être même le tiers que le premier Dune, fait que c'est pas un super gros roman, et c'est sûr qu'il y a plein de trucs bizarres, plus que dans le premier livre, mais je pense que s'il fait une adaptation, c'est sûr qu'il va changer des trucs.
Ouais.
Déjà que dans Dune, il a changé des trucs, comme on a dit qu'on ferait pas de divulgateur, mais sans rien révéler, à la fin de Dune, deuxième partie, c'est pas exactement la même chose que dans le roman, donc à cause de ça, ça va être différent s'il fait Dune Messiah. Puis aussi, quelque chose que je voulais mentionner, un dernier truc, c'est que Dune Messiah, ça se passe, je pense que ça commence quelque chose comme 10 ans après la fin du premier livre. Il y a comme une assez longue ellipse. Puis bon, je vais pas révéler qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que les personnages sont devenus, mais c'est assez différent, là. Mais c'est suggéré par la fin de Dune deuxième partie.
Ben écoute, tu sais que 10 ans plus tard, Timothée Chalamet va finir par avoir de la barbe, on sait pas.
Moi, je sais pas s'il est capable.
Bon, on taquine, évidemment, mais effectivement, il est un acteur qui a l'air jeune constamment. Bon, il a 28 ans, mais il a l'air d'en avoir à peu près 17. Là. Parlons un peu, avant de parler du jeu des acteurs, justement, parlons un peu de la direction photo puis des visuels. Dune, déjà, première partie, c'était impressionnant, surtout les quand tu vois en grand écran avec les scènes qui se passent. Moi, je me souviens des scènes dans l'espace, les vaisseaux de la guilde des transporteurs, je pense, ou en tout cas la guilde des en anglais, la Spacers Guild, les gens qui font finalement le transport entre les différentes planètes grâce à l'épice. C'était vraiment impressionnant parce que c'était immense. Tout était immense ou minuscule, puis ça donnait vraiment une impression de grandeur céleste. Comment tu as trouvé les visuels? Parce que ça se passe beaucoup, évidemment, dans le désert, sur Arrakis. Qu'est-ce que tu as pensé des visuels d'une deuxième partie?
Ben, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que autant que Denis Villeneuve, il a fait appel aux mêmes collaborateurs, c'est le même directeur photo, le même monteur, même directeur artistique, etc. On aurait pu penser que ça serait juste dans la continuité, puis oui, on voit que c'est toute la même équipe, fait qu'il y a des liens à faire entre les deux films, mais je trouve quand même qu'il y a il a diversifié sa palette visuelle dans le deuxième film. Mm-hmm. Dès le début du film, une des premières séquences, ça se passe pendant une éclipse sur Arrakis. Puis alors que le premier film, quand on est dans le désert, ben c'est pas mal tout le temps couleur sable, c'est très blanc, beige, tout ça. Puis ça peut paraître un peu répétitif, mais dès le début de deuxième partie, tout est comme orange, puis c'est vraiment une ambiance vraiment saisissante visuellement. Puis aussi, si vous avez vu le film ou si vous avez vu même la bande-annonce, il y a une longue séquence qui se passe sur la planète des Harkonnen, mm-hmm. qui est une planète qui a un soleil noir. Fait que c'est comme si tout était en noir et blanc. La façon, vu que c'est un soleil noir qui éclaire, il n'y a pas de couleur qu'on perçoit. Puis je pense que, si je me trompe pas, ils ont filmé avec des caméras infrarouges pour faire l'effet. Fait que c'est du noir et blanc, c'est juste comme si c'était filmé en infrarouge. En tout cas, je connais pas tous les détails techniques, mais ça fait vraiment un bel effet.
Ben c'est drôle, je savais pas cet aspect-là du tournage, mais c'est vraiment intéressant la façon dont on en parle. Puis effectivement, j'allais justement parler de la planète des Harkonnen, dont le nom m'échappe. Là. Mais j'ai trouvé que Dune, deuxième partie, c'est un des rares films où, quand tu as des effets visuels, que tu sais que c'est fait par ordinateur. Il y a une scène qui se passe dans une arène, tu as l'impression qu'il y a 150 000 personnes dans les gradins. Clairement, ils n'ont pas construit une arène pour 150 000 personnes. Mais tu sais que c'est faux, tu sais que c'est par ordinateur, mais tu vois pas le raccord, tu dis pas c'est un écran vert. Alors que oui, bon, il y a un écran vert, mais l'équivalent, mais j'avais pas l'impression que c'était ça. Il y avait un moment donné, il y a une scène où il y a un personnage qui est le fils d'ailleurs de Stellan Skarsgård, c'était lequel dans le Bill, c'est celui-là? C'est-tu Bill Skarsgård qui joue le jeune baron, je sais pas trop?
En fait, celui qui est comme un genre de gladiateur.
Oui, oui, oui.
En fait, il est joué par Austin Butler. Ah, celui qui avait joué Elvis dans le film de Baz Luhrmann.
Pourquoi dans ma tête c'était un des fils de...
Il peut ressembler, puis de la façon qu'il parle, il imite vraiment Stellan Skarsgård. Voilà. Il a essayé de, vu qu'il joue son neveu, d'un peu imiter sa voix puis son accent.
Ok. Et bref, Stellan Skarsgård qui joue le méchant Baron Harkonnen, qui reprend son rôle qu'il avait dans le premier film, d'ailleurs qui est toujours aussi bon comme acteur. Et bref, effectivement, je pensais que c'était un de ses fils parce qu'un de ses fils faisait le méchant dans It, dans ça de Stephen King, et il y avait une face de psychopathe.
Ça aurait pu, c'est vrai.
Il y a une scène donc qui se passe sur la planète d'Harkonnen où il y a une espèce de feu d'artifice parce que c'est la fête du qui est le neveu du baron là, et t'as des feux d'artifice qui explosent et ça, c'est comme tu dis, ça donne l'impression d'être vraiment tout en noir et blanc. Et j'avais quand même l'impression d'être là, de oui, encore une fois, c'est une scène artificielle, mais la façon dont c'est présenté, ça donnait l'impression d'être dans une BD. Et ce qui arrive vraiment pas souvent, encore une fois, parce que tu dis, OK, là, il y a une limite de budget ou il y a une limite de capacité technique. C'est sûr qu'on passe pas 30 minutes d'affilée dans ce genre de grande scène-là parce que ça coûte les yeux de la tête. Mais j'ai l'impression que c'est tellement bien intégré que je me sentais pas dépaysé. J'étais pas comme, OK, là, ils sont dans devant tel écran, ça, il y a telle affaire qui est faux, puis tout ça. On va en parler dans l'épisode de rattrapage, mais on en a parlé. L'épisode est déjà enregistré. On a parlé de Rebel Moon de Zack Snyder, qui est sorti sur Netflix là, à la fin de l'année passée. Aucune comparaison possible. C'est sûr que c'est pas le même budget, mais je veux dire, c'est deux façons de tourner, deux façons de présenter des visuels, le jour et la nuit. Et puis, c'est pas un jeu de mots par rapport au fait que chez l'Harkonnen, il n'y a pas de couleur, là, mais donc, j'étais époustouflé. Et puis bon, évidemment, les scènes dans le désert, tout ça, les scènes dans l'espèce de refuge montagneux où les Fremen se cachent, tout ça, c'était comme... J'ai l'impression d'être là, puis ça existait pour vrai. Donc vraiment, là-dessus, là, c'était fantastique.
Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que on devine que les décors sont augmentés avec des effets visuels par ordinateur, mais tu sais, ils ont quand même tourné pour vrai dans le désert.
Ouais.
Il y a beaucoup de décors qui ont été vraiment construits, donc que les acteurs se déambulaient dans des vrais décors. Fait que ça ajoute vraiment au côté... tu sais, ça, comme tu dis, là, réaliste, tout ça. Puis aussi, même les scènes où que c'est évident que c'est des effets spéciaux, comme, tu sais, les espèces de... les vaisseaux, ouais. Les ornithoptères, je pense qu'ils appellent, où évidemment, on n'a pas parlé encore des vers, des sables géants.
Oh, ouais.
Clairement, ça n'existe pas, puis c'est impossible à recréer physiquement. Donc, c'est ouais. Clairement purement des effets spéciaux. Des effets visuels par ordinateur, mais c'est tellement immersif puis convaincant puis tangible. Vraiment, je pense que le premier film avait gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels, puis mm-hmm. Il y a des bonnes chances que deuxième partie aussi gagne l'Oscar.
Oh oui, absolument. Puis d'ailleurs, autre parenthèse, as-tu acheté le fameux gobelet, le fameux seau à popcorn avec...
Je pense pas qu'il est disponible au Canada, au Québec. Je pense que c'est une chaîne de cinéma aux États-Unis ah, vraiment oui. Qui avait...
Ben, je sais pas, je suis allé le voir au Star City et il y avait, ouais. Il y avait, j'ai pas vu s'il vendait, mais il y avait le fameux seau, en tout cas avec le, pour la petite histoire, c'est les gens qui connaissent pas, c'est qu'ils ont décidé de prendre un espèce de seau à popcorn en aluminium cheap et par-dessus, une espèce de couvercle avec une embouchure qui ressemble à la bouche d'un ver des sables et dans la bouche, pour aller chercher votre popcorn, il y a des espèces de dents des vers des sables en caoutchouc. Flexible, évidemment, mais ça donne quand même l'impression de devoir passer sa main à travers des dents, et ça n'a pas l'air particulièrement palpitant comme façon de manger du popcorn, mais évidemment, tout le monde a fait des blagues, beaucoup, beaucoup de sous-entendus, puis j'ai vu des extraits d'entrevues où les acteurs, ils savaient pas trop, évidemment, les acteurs sont pas mis au courant nécessairement des produits dérivés, bon, et donc, les acteurs étaient un peu surpris quand ils entendaient parler de cette affaire-là. Même Denis Villeneuve n'a pas l'air de trop comprendre pourquoi ça existait. Mais je dois donner ça aux gens qui font le marketing. Tout le monde en a parlé. Tout le monde, Saturday Night Live a fait des blagues là-dessus. Tout le monde
a
fait
des memes. Oui, il y a un sketch, ouais.
Donc, ça a fonctionné. Et puis, si tu entends parler de ça, ben forcément, tu entends parler du film. Donc, que tu l'achètes ou pas, je pense que c'était 25$, mm-hmm. ce truc-là. Ça vaut pas ça. Ça vaut à peu près... 6-7$ de matériaux puis de fabrication, là. Achetez pas ça, s'il vous plaît.
Ben, c'est ça, t'as oui. raison, tu sais, on avait parlé du fameux Barbenheimer, tu sais, Barbie puis Oppenheimer,
ouais.
À quel point que tout ce qu'il y avait sur Internet, le côté, les mémés, le côté viral, ça l'avait sûrement contribué à rendre ces deux films-là un aussi gros succès au box-office. Puis, tu sais, d'une deuxième partie vient de sortir en salle, puis c'est vraiment de loin le plus gros succès au box-office de l'année à date. Autant aux États-Unis, au Québec, dans le reste mm-hmm. du monde, c'est vraiment un méga succès. Puis, bon, je dis pas que c'est à cause de la chaudière de popcorn bizarre, là, mais, tu sais, juste le fait, tu sais, quand on dit que toute publicité, tu sais, parlez-en en bien, parlez-en en mal, tout le monde en parlait, puis,
oui.
Tu sais, peut-être que le monde se moquait du truc de popcorn, mais... ça faisait que tout le monde parlait de Dune, fait que ça a sûrement pas nuit à la visibilité du film, là, au fait que le monde savait que le film allait sortir en salle. Là.
Non, absolument. Puis d'ailleurs, tu parlais du succès du film. Tu reçois comme moi, il y a une espèce d'infolette de l'industrie là, cinématographique qu'on reçoit. J'imagine que tu reçois aussi le Panorama. Tu dois recevoir ça aussi par courriel.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a des statistiques, souvent ils font bon de quel film occupe les plus grandes parts de marché, tout ça. Et j'avais lu récemment que Dune, deuxième partie, c'était déjà 30% des projections à peu près au Canada, aux États-Unis. C'est énorme, ils occupent, je veux dire, ils occupent le marché, là.
Oui, non, c'est ça. Puis même au centre-ville de Montréal, il y a plusieurs cinémas que quand tu regardes les horaires, Le film est présenté en IMAX, en 70 mm, en Ultra AVX, puis genre, il y a 3-4 autres salles de D-Box, whatever. Il y a toutes les façons possibles de voir le film sont offertes, là.
Oui, donc, en tout cas, on a eu des chiffres récemment. Ils ont ramassé, je pense, quasiment 100 millions de dollars, là. Je pense que 90 millions le premier week-end. Puis à l'échelle internationale, c'était un autre 150 millions, quelque chose de même. Donc, très, très bon départ. Là,
pour, oui, c'est plus que Oppenheimer.
Ah, OK, quand même.
À son premier week-end, là.
Oui, c'est d'excellents résultats, effectivement. Ben, revenons d'ailleurs au film, parce que là, bon, on parle de ce qui entoure le film, évidemment, puis c'était très intéressant d'en parler, mais on est là pour la chair du truc, le cœur du truc. Côté musique, qu'est-ce que tu as pensé de l'environnement sonore musical du film?
Ben moi, j'aime beaucoup en général Hans Zimmer, puis j'avais aimé sa musique dans le premier Dune, mais j'ai encore plus aimé ce qu'il a fait dans Dune deuxième partie. Il y a un thème, tu sais, souvent il y a des thèmes pour différents personnages ou différents aspects d'un film. Mm-hmm. Puis il y a ce que j'appellerais, mettons, le love theme, là, le thème romantique, quand on voit Paul et Shani, qui sont les deux protagonistes du film. Il y a une musique qui revient souvent dans le film, que moi, qui vient vraiment me chercher, je trouve ça vraiment touchant. Aussi que je trouve que la façon que Denis Villeneuve a écrit puis mis en scène l'histoire d'amour dans le film, moi, je trouve que c'est à peu près la chose qui marche le mieux dans le film. Mm-hmm. Moi, je pense que, surtout la deuxième fois que j'ai vu le film, je pense que j'ai pleuré 3 ou 4 fois, puis pratiquement toujours les scènes avec Timothée Chalamet puis Zendaya, je trouve vraiment que leur relation à eux, qui est encore là, on n'ira pas dans les divulgateurs, mais tu sais, il y a des hauts et des bas dans leur relation. Je trouve ça super émouvant, puis c'est en partie à cause de la musique.
Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est bien réussi, c'est bien présenté. Puis oui, c'est des scènes romantiques, mais sans être trop à l'eau de rose. Ça aussi, c'est un risque parce que, bon, Villeneuve est allé changer. Ben, il n'a pas fait ça tout seul, bien sûr, mais on va le dire, là, c'est John Spaeth. J'arrive pas à voir son nom, genre du vieux. Spaeth, voilà, co-scénariste. Donc, je ne sais pas s'il avait travaillé sur... Oui, il avait travaillé aussi sur Dune, première partie. Donc, co-scénariste avec Denis Villeneuve. Donc, ils sont allés, et ça, c'est pas un du jeu gâcheur, ça a été mentionné dans toutes sortes de médias auparavant, sont allés renforcer les rôles féminins dans le film, parce que, bon, toi, tu as lu le livre plus récemment que moi, mais c'est aussi un produit de son époque. Personnage féminin disparaissait un peu, semble-t-il, la deuxième partie du roman. Et là, deux scénaristes voulaient éviter ça, parce que, bon, c'est toujours intéressant quand on a des personnages féminins forts dans un film. Et donc, c'est ça, ils sont allés renforcer ça. Et donc, l'histoire d'amour en Paul et Shani, c'est une histoire d'amour, c'est sûr, mais il n'y a pas... C'est pas comme, oh mon Dieu, Paul, tu es si beau, tu es si fort, aime-moi, tout ça. C'est comme, c'est pas ça. Il y a vraiment plus de profondeur non. que ça. Puis ça fait du bien à voir. Moi, ce qui m'a surtout impressionné côté musique, c'est... Tu sais, t'es déjà... Bon, j'ai vu en cinéma ordinaire, là. Pas de fla-fla ou de billets à un prix qui n'a pas de bon sens. Mais c'est vraiment, t'es déjà dans une grande cité, dans une salle avec un grand écran. Donc, je sais pas, 50 pieds de large. C'est déjà des visuels très impressionnants. Puis là, la musique, ça cogne, c'est dans le sens... Ça va vraiment jouer assez fort. Pas trop fort, mais juste sur le bord d'être un petit peu trop fort. Et ça vient vraiment te river à ton siège. Là, tu dis, OK, il se passe quelque chose d'important maintenant, puis là, je vais vivre le moment, puis tu dis, OK, je suis complètement captivé par ce qui se passe en ce moment, parce que non seulement les visuels sont impressionnants, mais la musique vient m'emporter. Donc là-dessus, vraiment, là, je pense que c'est pas juste une question, bien sûr, de monter le volume, là, mais ça joue là-dessus, puis c'est vraiment efficace comme formule.
Oui, la musique, puis aussi la conception sonore en général, je trouve vraiment qui ont fait des trucs intéressants en mélangeant. Tu sais, c'est un film de science-fiction, mais ils ont utilisé beaucoup de vrais sons, de vrais effets sonores qui peuvent rappeler différents trucs, puis de la façon que les armes, les boucliers, les vaisseaux, tu sais, souvent c'est des sons un peu bizarres, mais qui ont l'air réalistes en même temps, là.
Non, absolument. J'aimerais t'entendre sur les personnages secondaires, parce que là, on a parlé évidemment de Timothée Chalamet, de Zendaya. Bon, on peut peut-être considérer Rebecca Ferguson, qui joue la mère de Paul Atreides, comme un personnage principal, quand même assez présente. Tu as mentionné Josh Brolin tantôt, là, qui revient comme une espèce de maître d'armes de la maison Atreides, qui a survécu au premier film. Puis d'ailleurs, ça aussi, c'était mentionné, là, je pense, dans les bandes-annonces. Donc, c'est pas une surprise. Qu'est-ce que tu as pensé des autres personnages, des autres acteurs?
Un que je veux absolument mentionner, que je pense c'est mon personnage de soutien préféré, parce que je considère que Zendaya, dans le deuxième film, c'est pas un personnage de soutien, c'est vraiment une protagoniste qui est aussi importante que Timothée Chalamet. Mais dans les personnages de soutien, j'ai vraiment beaucoup aimé Javier Bardem, qui joue Stilgar, qui est comme l'espèce de chef des Fremen. Et aussi, on n'en a pas parlé vraiment encore, mais le film d'une deuxième partie, c'est en grande partie un drame biblique. On a vraiment souvent l'impression d'écouter Jésus de Nazareth. Il y a comme, tu sais, ça se passe dans le désert, dans des cavernes puis des trucs comme ça, ça a l'air vraiment dans l'Antiquité, et il y a toute l'idée de la prophétie que le personnage de Paul, c'est comme un messie, que c'est vraiment le sauveur, le prophète que le peuple Fremen attendait depuis des siècles. Puis Stilgar, le personnage de Javier Bardem, c'est comme celui qui croit le plus à la prophétie, c'est quelqu'un, il a vraiment la foi. Puis c'est très drôle dans le film, de la façon, il y a plusieurs scènes, moi, qui me font beaucoup rire, qu'il est vraiment comme, ah oui, c'est comme dans la prophétie, c'était écrit, puis tu sais, c'est le film s'amuse quand même beaucoup avec ça, là.
Oui, oui, absolument, puis il y a même un moment donné où Paul dit, non, c'est pas moi le Messie, je suis juste un homme, puis là, personnage de Javier Bardem qui se retourne vers ses Fremen, ses amis Fremen, puis il dit, ah ben, il est très humble, là. C'est un messie humble, t'es comme, voyons, tu sais, à un moment donné, on comprend que c'est pour la comédie, mais il y a comme un niveau, effectivement, j'étais partagé entre l'idée de, bon, c'est drôle, mais en même temps, c'est qu'ils vont quand même s'appuyer sur ça pour un peu la suite des choses, donc, tu sais, quand je te disais au début de l'épisode, il y a des choses trop courtes, selon moi, ben ça fait partie des choses, je comprends que tu peux pas faire 3 heures sur des débats sur la prophétie messianique puis tout ça, puis la religion, parce que ce que tu veux, entre autres, c'est tu veux un peu d'action, tu veux, bon, des batailles, tu veux de l'aventure, de l'amour, c'est pas juste, bon, ben est-ce que cette personne-là a effectivement des pouvoirs divins ou quoi que ce soit, tu sais, c'est un débat de théologien, c'est pas un film de science-fiction rendu là. Mais oui, je trouvais que certains personnages, effectivement, celui-là, assez intéressant. J'ai aimé Dave Bautista, son personnage qui est fait partie de la maison Harkonnen, qu'on avait déjà vu dans, évidemment, d'une première partie. Mais j'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait plus de profondeur. C'est une espèce de méchant, mais en même temps, il comprend un peu plus la réalité sur le terrain que son grand patron, qui est le baron Harkonnen, et que le personnage d'Austin Butler, qui est une espèce de finalement un jeune parvenu, là, un jeune qui veut de la gloire puis de l'action tout de suite, mais qui comprend pas comment ça marche sur le terrain. Fait bref, Dave Bautista là-dedans, là, j'ai trouvé ça intéressant, son personnage, la façon dont c'est traité.
Oui, pour un ancien lutteur, c'est vraiment un bon acteur, puis il se donne complètement, puis c'est vrai que je pense que son rôle est plus important dans la deuxième partie que dans la première, puis c'est ça, c'est très intense, très habité comme performance, là.
J'aimerais par contre, dans ma série de ma courte série de déceptions, parce qu'encore une fois, j'ai trouvé ça très très bon comme film, mais on a une distribution qui est très solide de personnages secondaires. Florence Pugh est là, elle joue la fille de l'empereur. Évidemment, Charlotte Rampling reprend son rôle de mère révérende des Bene Gesserit, qui est une espèce d'ordre de sorcière spatiale. et l'empereur, c'est Christopher Walken. Il y a même Léa Seydoux qui est là brièvement aussi, qui était aussi une des sorcières de l'espace. Et je trouve que tout ce monde-là est sous-exploité. Et je trouve ça dommage parce que entre autres, on nous parlait de « Ah oui, Christopher Walken, c'est l'empereur, Shaddam IV, c'est le maître de la galaxie. » Puis finalement, il est là à peu près 3 minutes. Il a l'air d'être en pyjama. Puis, pour avoir vu Christopher Walken plusieurs fois faire des facéties, plusieurs fois faire des comédies, pour l'avoir vu dans Severance récemment, l'excellente télésérie Severance, où il est sérieux, mais pas tant que ça. Puis là, je le voyais, puis j'avais l'impression qu'il était un peu une parodie de Christopher Walken. Puis je trouvais ça dommage, parce que ces gens-là sont excellents. Là. Toute la gang, ils sont très, très, très bons. Ils sont là pas longtemps, et je trouve que malheureusement, les rôles qu'on leur a donnés, tu sais, oui, on peut pas faire un film de 4 heures, là, mais je trouve que les rôles qu'on leur a donnés sont quasiment unidimensionnels, un peu.
Donc, ouais, ben, tu sais, comme je disais, j'ai lu récemment le livre, l'empereur est vraiment pas beaucoup là dans le livre, c'est pas un personnage qui est très important, puis aussi, en général, tu sais, tu mentionnais la princesse qui est jouée par Florence Pugh, puis, tu sais, c'est un personnage qui est beaucoup plus important dans les livres suivants, ouais. Entre autres dans Dune Messiah. Fait que, tu sais, c'est un peu... c'est sûr que là, on parle seulement du film qui est devant nous, mais quand on a lu les livres, on comprend que, dans le fond, tu sais, je pense que Denis Villeneuve, il veut vraiment faire un troisième film, puis ouais. Il donne des rôles comme ça à des super bons acteurs, actrices, mais c'est un peu dans l'idée que ils vont avoir des plus gros rôles dans la suite, là.
Ben, écoute, espérons qu'à ce moment-là, qu'il va y avoir cette suite. Non pas que, évidemment, le film semble pas complet. Il semble quand même... On pourrait quand même en rester là, je pense, puis ça serait... Je sais pas toi ce que t'en penses, là, mais moi, je pense que, tu sais, on termine ça là, puis on dit, il y a pas de suite, il y a pas d'une troisième partie. Ben, on a quand même
oui.
Un excellent film de science-fiction.
Oui, non, c'est ça, puis... Tu sais, quand on avait fait l'épisode sur le premier Dune, ma frustration principale, je trouvais que c'était comme la moitié d'une histoire, puis j'étais comme... Ouais. J'avais hâte de voir la suite, puis j'avais peur que Denis Villeneuve puisse pas tourner la suite. Tandis que là, c'est vraiment la fin de l'adaptation du premier livre de Dune. C'est sûr qu'on sait qu'il existe d'autres livres, donc il pourrait avoir des suites. Mais, mettons qu'on dit que c'est l'histoire de comment Paul est devenu le leader des Fremen et sa vengeance contre les Harkonnen, cette histoire-là est terminée. Donc, s'il n'y a pas de troisième film, on a quand même l'impression d'avoir eu une histoire complète.
Oh oui, absolument. Puis, donc, mais c'est sûr que, bon, si on le dit, vous aurez encore plus de Dune, mais tant mieux. Ma crainte, évidemment, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est un peu toujours ma crainte quand une histoire fonctionne très bien et que là, les gens à Hollywood ou ailleurs disent « on va faire plus d'argent, encore plus d'argent », c'est d'arriver avec un scénario qui est édulcoré ou arriver avec quelque chose qui est pas nécessairement fidèle au matériel original. Bon, faudrait que je relise « Messie de Dune » quelque part dans ma bibliothèque à la maison. Mais effectivement, ce serait curieux de voir est-ce qu'on pourrait dire à Denis Villeneuve, vas-y, tu l'as... Fais ce que tu veux, finalement, là, te prouver que tu étais capable de gérer ça. On te laisse libre cours, tu as ton budget, puis bon, tu y vas comme ça. On verra peut-être qu'il va y avoir... Ben, c'est ça, lui-même, il a l'air de vouloir faire ça, je pense qu'il l'a mentionné. Là. Puis clairement, les studios vont dire, ben on va continuer de faire entrer de l'argent. Mais je trouve ça bien quand même, dans le sens où c'est pas un film de science-fiction. Ça reste quand même une œuvre complexe. Tu sais, c'est pas... Tu sais, oui, tu peux avoir un divertissement qui est simple, puis c'est tout à fait correct. Puis toi, puis moi, on a souvent parlé de films de blockbuster, des explosions, puis d'Arnold Schwarzenegger, puis tout ça. On s'entend que là, on est déjà quelques niveaux au-dessus de Total Recall, par exemple. Même si Total Recall, c'est un excellent film, mais bon, c'est pas le même registre. Mais c'est ça, je trouve ça bien d'avoir ce genre d'œuvres-là qui sont complexes, qui sont capables d'aller chercher un public. Parce que clairement, le public est au rendez-vous, pas juste parce qu'il y a des explosions, là. Il y a vraiment... c'est des gens rentrent là en disant, OK, ça dure 2h46, c'est pas du par-par pendant 2h46. Donc, ça prouve que le public est... Le public a un intérêt pour ça, là, clairement, là.
Oui, ben c'est ça. J'ai pas parlé à tout le monde dans le public pour voir ce que les gens appréciaient, mais quand on regarde le film, c'est clair qu'il y a des thèmes autres que juste, comme tu dis, du par-par. Tu sais, il y a vraiment, c'est vraiment un film qui est sur le danger de d'unir la politique puis la religion. Tu sais, c'est vraiment le spectre d'une guerre sainte, ce qui est un peu ce qui... Bon, c'est pas un divulgateur, là. Je pense que même dans la bande-annonce et, ou dans les articles que vous avez lus, on sait que c'est ça qui risque d'arriver. Et aussi, tu sais, toute l'idée du peuple Fremen qui vit en harmonie avec son écosystème, tu sais, c'est un thème, tu sais, dans les années 60, ça, dans le fond, c'était visionnaire parce que maintenant, aujourd'hui, l'environnement, c'est quelque chose de super important. Puis, entre autres, les jeunes générations, je pense qu'ils sont vraiment, c'est quelque chose qui est super crucial parce que c'est pour la survie de l'humanité et de la planète. T'sais, il faut faire attention à l'environnement, puis c'est quand même un des thèmes principaux dans Dune, là.
On recommande bien sûr donc Dune deuxième partie. Est-ce que tu dirais que ça vaudrait la peine de se faire une balle, évidemment, Dune 2, appelons-la Dune 2, là. toujours en salle, bien sûr, mais est-ce que tu dirais aux gens peut-être d'attendre puis de dire on écoute Dune 2 d'un coup, quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui font ça, par exemple, avec Le Seigneur des Anneaux. Je trouve ça un petit peu long, peut-être, l'édition complète du Seigneur des Anneaux là, dans une seule journée. Mais est-ce que tu dirais, tu sais, bon, dans quelques mois, quand deuxième partie va être disponible sur les plateformes ou en disque, de dire ça vaut la peine de s'installer une journée ou une longue soirée, puis de dire on écoute sans interruption, on écoute Dune 1, Dune 2, puis là on a vraiment l'expérience complète.
Ben, je sais pas, je trouve que c'est quand même des longs films, surtout le deuxième. Je pense que les deux back-à-back, ça serait un peu trop long. Tu sais, Seigneur des Anneaux, je l'ai fait une fois dans ma vie. J'avais vraiment les trois DVD, puis pendant une journée, j'avais écouté les trois films, puis c'est super bon, c'est dans mes films préférés, mais à la fin, j'étais épuisé, là. Tu sais, j'étais vraiment « OK, là, tu sais, je vais aller me mettre en boule puis dormir pendant 3 jours. »
Alors, je peux comprendre ça tout à fait. Mais effectivement, moi, je me dis aussi, c'est peut-être... Je sais, j'ai pas la longueur, là, effectivement, de Dune 1, là, tant je vais essayer de trouver ça rapidement pendant qu'on se parle.
Au moins 2h30, je pense.
C'était 2h30, effectivement. Donc, ça nous vient de nous faire... 5 heures et quart à peu près de film.
Non, moi je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est, tu sais, si ça fait un bout de temps que vous avez pas vu la première partie, c'est, mettons, regardez-la à la maison, puis mettons, le lendemain ou quelques jours après, aller en salle voir d'une deuxième partie, puis comme ça, c'est frais en mémoire, mais c'est pas toute une seule journée dans cet univers-là, là?
Non, effectivement. Ben oui, c'est une excellente suggestion. Puis bon, évidemment, Dune, première partie, est disponible sur plusieurs plateformes. Par contre, n'est pas sur Netflix. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, mais est disponible à la location un peu partout ailleurs. Le Dune de Lynch est sur Netflix, mais c'est probablement pas ça que vous voulez voir avant d'aller voir Dune, deuxième partie. Voilà. Ben, Kevin, merci d'être joint à moi pour Dune, deuxième partie.
Oui, merci à toi. On a fait un assez long épisode quand même.
Oui, ben je pense que pour ce genre de film-là, c'est intéressant de prendre notre temps. Puis bon, donc, c'est nous aussi, un film de 2h46, ben, un épisode d'à peu près 50 minutes. On n'est pas si pire. Donc voilà, merci, un gros merci. Avant qu'on se laisse, vu que ça va être le premier épisode de 2024, je veux rapidement vous parler du retour de notre Patreon. On avait un Patreon l'année dernière pour pieuvre.ca. On a repensé à tout ça pendant les fêtes. On a discuté un peu de qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir pour que vous ayez une meilleure expérience sur Patreon. En même temps, évidemment, pour nous encourager les gens chez Pieuvre. Et on a décidé de vous présenter quelque chose qui s'appelle La Voûte. C'est très, très simple. La Voûte, en fait, c'est des films qui ont marqué leur époque. Donc, ça peut être des films qui sont sortis il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, plus tard, encore plus avant, c'est une belle phrase ici, en tout cas. Bref, des films qui sont sortis depuis plusieurs années, voilà, et qui ont marqué donc leur époque quand ils sont arrivés en salle. Et donc, pour avoir accès à ces épisodes-là, c'est très simple. Vous devez vous abonner à Patreon. Donc, c'est 5$ par mois. Et ça vous donne accès à un nouveau film, donc, dans cette voûte par mois. Et ça vous donne aussi accès, bien sûr, à toutes les archives qui sont déjà là. Donc, on a déjà travaillé, toi et moi, Kevin, sur différents épisodes donc, de cette voûte. On va d'ailleurs en enregistrer un autre la semaine prochaine. Et bien sûr, donc, un par mois pour le futur proche, pour la suite des choses. Et donc, c'est ça, vous devez vous abonner. Ou si vous vous dites, ben écoutez, moi, j'ai pas nécessairement envie de m'abonner. J'ai envie seulement d'écouter, par exemple, les critiques qu'on a faites de la trilogie Batman de Christopher Nolan, ben c'est très simple. Il y a une boutique maintenant sur Patreon. Vous allez là-dessus, vous pouvez acheter les épisodes à la pièce. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous nous encouragez, vous encouragez le podcast et le site. Donc voilà, donc ça va être en ligne. Là, évidemment, j'ai une notification qui fait bing sur mon ordinateur. C'était pas voulu, je m'en excuse. Bref, ça va être en ligne prochainement, donc ça s'en vient très, très bientôt. Je pense qu'au moment où cet épisode-ci va sortir, je pense qu'il va manquer quelques jours encore où ça va être en ligne. Mais évidemment, on va vous mettre des liens vers le Patreon, ça va être sur le site de Pierre, ça va être dans la description des épisodes. On va aussi vous présenter des extraits des épisodes, de ces épisodes de La Voûte sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes. Vous ayez un petit peu une idée de ce dont on parle. Vous dites, ah, peut-être c'est intéressant, je vais aller écouter la suite. Donc, je vais m'abonner. Tout ça, ça s'en vient très bientôt. En attendant, continuez à vous abonner à la page Facebook du podcast. On vous parle de nos critiques écrites. On vous parle, évidemment, de nos épisodes. On met des bandes-annonces. Des fois, on discute de choses et d'autres. Tout ça, bien sûr, relié au domaine du cinéma et à la télé. Et en terminant, bien entendu, la fameuse infolettre de Pieuvre. Donc, chaque samedi, vous avez l'ensemble des contenus qui sont publiés durant la semaine. C'est gratuit. Et donc, Kevin, encore une fois, un gros merci. Et on se parle très bientôt. Bye.